Bonjour, je suis le père Anne-Guillaume, chapelain au sanctuaire Notre-Dame de Lourdes. Je salue tous les pèlerins, tous les diocésains du diocèse de Vannes. Évidemment, le confinement est prolongé encore un petit peu, nous interdit de venir en pèlerinage à Lourdes, mais nous pouvons vivre un pèlerinage spirituel. C'est Bernadette, Sainte Bernadette, qui vivait cela. Quand elle était partie à Nevers, elle n'est jamais revenue à Lourdes, mais elle disait: « Je fais tous les jours mon pèlerinage à la grotte. » Et elle disait: « C'est un pèlerinage spirituel. » Alors, c'est ce que nous vous proposons. Et là, donc, je propose un petit enseignement sur le thème d'année. Donc, « Je suis l'Immaculée Conception », cette parole prononcée par la Vierge Marie, ici à Lourdes devant Bernadette, c'était le 25 mars 1858, à la 16e apparition. Donc c'est une grande grâce évidemment qui nous a permis de reconnaître que cette dame, Akero, cette jeune fille que voyait Bernadette dans le rocher de Massabielle, était bien la Vierge Marie. Donc c'est évidemment un thème d'une importance capitale. Alors c'est cette expression de l'Immaculée Conception, je suis l'Immaculée Conception et l'Immaculée Conception de la Vierge Marie, que je vous propose d'approfondir, de méditer un petit peu. Tout d'abord, donc, quand nous parlons de l'Immaculée Conception de Marie, nous parlons tout simplement de la sainteté de la Vierge Marie. La sainteté. Dieu seul est saint. Dieu seul est saint. Il est trois fois saint. Le Christ, le Christ, Dieu fait homme, va être source de cette sainteté de Dieu sur terre pour tous les hommes. Son humanité, on va dire, devient source de sainteté sur terre. Et quiconque alors, c'est pour nous, c'est pour Marie, c'est pour nous, c'est pour tous les croyants, chacun d'entre nous, quiconque se trouve être en contact avec le Christ est, pardonnez-moi le terme, est contaminé par la sainteté de Dieu. Il devient donc saint. C'est une contamination par contact. Le terme est d'actualité, mais il n'a rien à voir avec ce que nous vivons aujourd'hui. Alors voilà, Dieu seul est saint, mais nous pouvons être saints dès l'instant où nous sommes établis en contact avec Dieu. Et c'est le Christ, évidemment, qui est Dieu sur terre, Dieu fait homme, Dieu posé sur terre en quelque sorte, Dieu rendu accessible, qui nous donne l'accès à la sainteté de Dieu. Alors déjà, qu'est-ce que la sainteté? Être saint. Être saint en lui-même, ça veut simplement dire être autre. Saint, on pourrait traduire par séparé. En latin, on dit sanctus, c'est le même racine que section, quelque chose qui est mis à part en quelque sorte, ou qui est sanctionné, donc bien tranché en quelque sorte. Évidemment, cela souligne simplement la totale différence entre Dieu et les hommes. Dieu, on va dire, il est comme ceci, Dieu est vivant en lui-même, il est source de vie. L'homme, en revanche, reçoit la vie de Dieu. Nous ne sommes pas vivants en nous-mêmes, nous recevons la vie de Dieu. Et hélas, même, nous le savons bien, nous la perdons. Dieu est le créateur, l'homme est une créature. Tout cela marque une différence radicale et une incompatibilité en quelque sorte entre Dieu et les hommes. Et pourtant, eh bien, Dieu qui se fait homme renoue le contact, rétablit le contact et va permettre aux hommes, donc c'est vraiment la mission du Christ, il est le Christ pour cela, il est comblé de l'Esprit Saint, donc il est le Saint par excellence, pour nous redonner cette sainteté qui vient de Dieu et que nous allons pouvoir maintenant recevoir par le Christ. Parfois on traduit la sainteté pour nous, par le fait d'être sans péché. En fait, il faut comprendre qu'être saint, c'est plus subtil que simplement être sans péché. Cela va bien au-delà. La sainteté que nous recevons de Dieu est une sorte une vraie transformation de notre nature humaine. On l'a bien compris, s'il y a une telle différence entre Dieu qui est saint et nous, il faut transformer notre nature humaine pour que nous puissions être saints, afin que nous ressemblions à Dieu qui est donc autre que nous, on l'a bien compris. Nous avons l'habitude, quand on parle de la sanctification, si on comprend les choses comme cela, la sanctification, les orientaux, dans l'Église orthodoxe par exemple, utilisent un autre terme, ils utilisent le terme de divinisation, pour bien nous faire comprendre qu'il s'agit d'un changement de nature en quelque sorte entre l'homme et Dieu, un échange de nature. On dit aussi au moment de Noël que Dieu se fait homme pour que l'homme soit fait Dieu. C'est ça, cette divinisation qui revient à la sanctification, parce qu'on reçoit cette sainteté de Dieu. Alors par rapport au péché, parce que nous savons bien que nous sommes pécheurs, mais nous ne pouvons être pécheurs tout en ayant reçu et en étant en contact avec le Christ, source de la sainteté de Dieu pour nous. Disons ceci, celui qui est saint est libéré de son péché grâce à ce contact qu'il a avec Dieu. Dire simplement les saints n'ont pas de péché, c'est trop rapide et presque faux. Les saints sont des pécheurs. Si nous lisons la vie des saints, nous voyons qu'ils sont les premiers à se confesser pécheurs et le plus gravement pécheurs. Ils sont pécheurs comme tout un chacun. Mais disons ceci, par la sainteté qui habite en nous, en eux, en nous, le péché dans le saint n'a pas de prise. Le saint est libéré de son péché. Les péchés sont pardonnés, c'est ça que ça signifie. Si on lit Saint Jean, dans la première lettre de Saint Jean, au chapitre 5, il commence comme ceci en disant « Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. » Et plus loin, il écrit « Quiconque est né de Dieu ne pèche pas. » C'est cela cette grâce. Nous savons que malgré tout, nous sommes pécheurs, mais dès l'instant que nous sommes nés de Dieu, dit Saint Jean, ça va être ça le contact qu'il nous faut établir avec le Christ pour naître de Dieu, eh bien, même si nous péchons, finalement, ça n'a plus de valeur. Cela s'évanouit, Dieu nous pardonne nos péchés. Et si on relit Saint Jean, il commence comme ceci en disant « Quiconque croit que Jésus est le Christ, celui-là est né de Dieu. » Je vous parle depuis le début de ce contact nécessaire avec le Christ pour recevoir la sainteté de Dieu. Le contact avec Dieu est le simple fait de croire, de reconnaître que Jésus est le Christ, le Sauveur, le Fils de Dieu, bref, qu'il est Dieu fait homme et qu'il s'avance vers nous comme une source de sainteté. Donc il ne s'agit évidemment pas d'un contact physique, concret, matériel, c'est d'un contact spirituel par la foi. Celui qui croit, il ouvre son cœur et Dieu investit son âme et vient en lui comme une source de sainteté. Alors après tout cela, je voudrais aborder la question de la Vierge Marie, évidemment. Pourquoi est-ce que Marie va se retrouver éminemment sainte jusqu'à être conçue de manière immaculée? Qu'est-ce que cela signifie? Marie, on le comprend bien, est en contact avec Dieu d'une manière absolument unique et sublime. En tant qu'elle est mère de Dieu, elle est établie dans un contact avec le Christ de manière absolument unique. Elle l'a porté dans son sein, elle l'a mis au monde, elle l'a accompagné partout où il allait. Elle était là encore quand il est mort, quand il est ressuscité, et quand il a envoyé son esprit de sainteté, précisément, sur l'église à la Pentecôte, elle était encore là. Bref, elle n'a jamais quitté Jésus, et elle est restée en contact toute sa vie durant avec le Christ en tant qu'il est source de sainteté. Ça, c'est le contact historique, physique, je dirais, entre Jésus et la Vierge Marie, qui déjà implique pour Marie une grande sainteté. Mais évidemment, je l'ai dit, le contact entre Jésus et Marie va bien au-delà. Et au-delà du contact physique et historique, il y a un contact spirituel. C'est donc la foi, encore une fois. La foi de la Vierge Marie. Marie a une foi absolument sublime. Vous savez que les pères de l'Église, donc les premiers théologiens, en quelque sorte, dans les premiers siècles, ont écrit ceci, ont compris ceci. Marie a conçu dans la foi avant de concevoir dans la chair. Au moment de l'Annonciation, par exemple, elle concevait dans la foi, elle croyait de toute la force de son âme la parole que l'ange Gabriel lui disait avant de concevoir dans sa chair le Fils de Dieu, Dieu qui se faisait homme en elle. Cette expression des pères de l'Église, elle est très belle. Marie a conçu dans la foi avant de concevoir dans la chair. Je réfère aussi à Saint Jean-Paul II dans son encyclique sur la Vierge Marie, la mère du Rédempteur. Il contemple, lui, le pèlerinage de foi de la Vierge Marie. Vraiment, s'il y a quelque chose que l'on peut retenir de la Vierge Marie, c'est sa foi. Et une foi donc absolument sublime. Sublime, ça veut dire qu'elle dépasse le seuil, qu'elle dépasse toutes les limites. Et par rapport à notre foi, par exemple, qui est bien souvent faible, et on peut dire ceci, que notre foi, quand nous croyons, bien cela nous incorpore au corps du Christ. Nous devenons membres du corps du Christ, nous devenons membres de l'Église, nous devenons membres de la communion des saints, etc. Nous recevons de la sainteté de Dieu, du Christ et tout. Notre foi nous incorpore au corps du Christ. La foi de Marie, elle conçoit le corps du Christ. Donc elle est dans une toute autre dynamique, une toute autre posture par rapport à nous. La foi de Marie fait qu'elle conçoit le corps du Christ. Ça nous montre la dimension sublime de la foi de Marie. La foi de Marie fait que sa sainteté est sublime aussi, et qu'elle dépasse tous les seuils et toutes les limites. Elle a ce contact sublime et magnifique avec le Christ, source de sainteté, et ce contact qui est établi à partir du premier instant de l'incarnation, donc le 25 mars, c'est pourquoi c'est si important à Lourdes que ce soit le 25 mars que Marie ait prononcé cette parole. Le 25 mars, elle est établie en contact avec le Christ qui prend chair en elle, qui est la source de sainteté. Bien, ce contact rejaillit, rebondit, l'expression n'est pas très belle, rejaillit dans toute la personne de la Vierge Marie jusqu'au tout commencement de sa propre existence, donc jusqu'à sa conception dans le sein de sa mère, Sainte Anne. Marie était conçue d'une manière tout à fait humaine et normale, dans une relation avec Anne et Joachim, donc les parents de la Vierge Marie. Mais du fait de la foi qu'elle aura et de ce contact unique qu'elle aura avec le Christ, il y a une sainteté, parce qu'elle est en contact avec la source de sainteté, il y a une sainteté qui rejaillit dans toute l'existence de la Vierge Marie jusqu'au commencement de l'existence de la Vierge Marie, donc jusqu'à sa conception. Marie est donc sainte dans ce sens qu'elle est sanctifiée de manière parfaite et absolue depuis sa conception et elle est donc conçue de manière immaculée. Marie est conçue immaculée, nous parlons de la conception immaculée de Marie. Et voyez, quand on parle de la conception immaculée de la Vierge Marie, en fait on ne parle que de sa sainteté, mais d'une sainteté tout à fait sublime parce qu'elle est dans un contact absolument unique, inégalé et qui ne se renouvellera jamais. Avec le Christ, donc, qui est la source de sainteté en tant qu'il est Dieu. Voilà, finalement, les choses sont simples. L'Immaculée Conception de la Vierge Marie, c'est sa sainteté, mais qui n'est que pour la Vierge Marie. Je voudrais, avec vous, rentrer dans des questions un peu plus théologiques à propos de la foi de l'Église quand on parle de l'Immaculée Conception de la Vierge Marie. Je dirais, il y a trois choses à bien comprendre quand on parle de cette sainteté sublime et de l'Immaculée Conception de la Vierge Marie. La première chose, c'est que Marie est sauvée. Chacun d'entre nous, nous sommes sauvés par le Christ. Marie est sauvée par le Christ. Dire que Marie est conçue immaculée, ça ne signifie pas qu'elle échappe à la rédemption, mais qu'au contraire, elle reçoit cette grâce de sa conception immaculée par la rédemption. C'est un peu compliqué à comprendre parce que le mystère de la rédemption, c'est le Christ qui l'a acquis, qui l'a réalisé quand il mourait sur la croix. Et Marie a reçu cette grâce par avance, donc 33 ans avant, peut-être un peu plus. Alors ça, c'est mystérieux. Comment est-ce que la grâce du Christ produite, réalisée au moment où il meurt sur la croix, peut-il rejaillir par avance? Bien, nous comprenons bien que le Christ, il est mort en l'an 33, si on schématise, hein, mais il est mort pour tous les hommes, même pour ceux qui étaient morts avant lui. Même pour ceux qui ont existé avant lui, qu'il n'a jamais connu humainement, il est mort pour tous les hommes. Donc il est capable de sanctifier l'humanité entière. Et pourquoi pas donc sa mère, juste 33 ans avant, ça a tout à fait du sens. Marie, conçue immaculée, reçoit cette grâce qui est une grâce de salut. Nous recevons nous-mêmes le salut, ça prend cette forme de la sainteté en nous. Marie a reçu le salut et en elle, ça a pris cette forme de sa conception immaculée, tellement elle était proche du Christ. C'est la première chose à bien comprendre. Marie est sauvée, comme chacun d'entre nous, mais de manière sublime, au-delà de toute limite. Deuxième chose à bien comprendre, c'est que Marie est donc, par sa conception immaculée, a été préservée du péché originel. Alors on parle des choses toujours un peu douloureuses et délicates à propos du péché originel. Nous, nous sommes pardonnés de tous nos péchés par le salut que nous recevons, Dieu nous pardonne nos péchés. La grâce du baptême, et qui est renouvelée sans cesse par la vie chrétienne, la grâce du baptême nous libère un peu des condamnations du péché originel. Mais il en reste toujours quelques-unes. La preuve, c'est que nous sommes toujours pécheurs et nous devrons mourir un jour. Par sa conception immaculée, par cette sainteté sublime, Marie est préservée, pas seulement délivrée des conséquences du péché originel, elle est préservée du péché originel et de toutes ses conséquences, ce qui fait que Marie, au-delà, dans toute son existence, n'a jamais commis aucun péché. Elle est restée dans une sainteté parfaite et elle n'a jamais connu non plus toutes les affres et les conséquences du péché originel, et en particulier la mort. C'est pourquoi immédiatement, quand on a compris que Marie est conçue immaculée, conçue sans péché, eh bien, il y a, de manière corrélative, nous pouvons comprendre qu'elle est aussitôt, qu'elle n'a pas connu la corruption du corps que représente la mort, et donc elle est montée corps et âme dans la résurrection déjà. C'est le mystère de l'Assomption de la Vierge Marie. Donc c'est la deuxième chose, Marie est préservée du péché originel. Elle est sauvée, elle est préservée du péché originel. Une troisième chose un peu délicate à comprendre sur l'Immaculée Conception de la Vierge Marie, c'est que ce salut qu'elle reçoit, qui la préserve du péché originel, la touche au niveau de sa nature humaine. Ce n'est pas seulement sa personne, son âme, son esprit, c'est sa nature humaine qui est délivrée, qui n'est pas abîmée, qui sort intacte et qui n'est pas abîmée par le péché originel ni par aucun autre péché. Nous-mêmes, notre nature humaine que nous portons, c'est ça la notion du péché originel finalement, notre nature humaine que nous portons est abîmée. Voilà, nous naissons pécheurs et nous naissons mortels. Aucun homme n'échappe à cela. Ça fait partie des douleurs de notre existence terrestre. Marie, quant à elle, préservée du péché originel, ça veut dire qu'elle est, c'est sa nature humaine qui est restaurée, qui est guérie, qui est réparée, qui est intacte, comme Dieu l'avait prévu quand il avait créé Adam et Ève. Donc on est comme un recommencement. Mais aussitôt, si nous reconnaissons que Marie, dans sa nature, est libérée de tout mal, de toute mort, de tout péché, de tout ce qui nous blesse, nous, aujourd'hui, quotidiennement, depuis le péché d'Adam et Ève, eh bien, ça veut dire qu'elle est comme prête, dans sa nature, pour être la mère d'une nouvelle humanité, de l'humanité sauvée, de l'humanité rachetée. Comme Ève était la mère des vivants, et puis finalement ça a mal fini, elle est devenue la mère des mortels, Marie est apte à devenir véritablement la mère de toute l'humanité nouvelle, parce qu'elle est sauvée au niveau de sa nature humaine qui reçoit le salut de manière totale. Voilà ces trois points un peu difficiles à comprendre, c'est vrai, sur la conception immaculée de Marie. Elle est sauvée, elle est préservée du péché originel, c'est sa nature humaine qui est sauvée, ce qui la rend apte à devenir mère d'une humanité tout à fait nouvelle. Alors maintenant j'en viens à cette expression que la Vierge Marie a utilisée à Lourdes quand elle a dit « Je suis l'Immaculée Conception ». Depuis le début que je vous parle, depuis le début que j'ai la joie de vous parler, j'ai dit qu'on parle de la conception immaculée de Marie. Marie est conçue sans péché. C'était manifesté comme cela en 1830 à la rue du Bac. Ô Marie conçue sans péché, c'est la médaille miraculeuse. Elle est conçue immaculée. Or, ce qui est très étrange, c'est que quand elle révèle son identité à Bernadette, elle prononce ces mots « Je suis l'Immaculée Conception ». Elle ne dit pas « Je suis conçue immaculée ». Elle n'est pas seulement conçue immaculée, elle se dit « Je suis la conception immaculée ». Dit autrement, elle transforme la formule. Elle se fait le sujet, elle se dit être la conception immaculée. Alors ça, c'est une formule très étrange qui nous fait rebondir sur beaucoup de choses et qui nous permet de comprendre aussi beaucoup de choses sur la Vierge Marie. La première chose que je pourrais dire, c'est que je vous ai dit que la conception immaculée de Marie, c'est une grâce que Marie a reçue, tout simplement, de son Fils, source de toute sainteté, et c'est sa sainteté à elle. Quand elle dit « Je suis l'Immaculée Conception », ça veut dire qu'elle s'identifie à la grâce reçue. Elle a reçu une grâce unique et elle s'identifie elle-même, sa personne, à cette grâce qu'elle a reçue. Et là, nous pouvons comprendre que c'est le sommet de la sainteté. Ça veut dire que finalement, Marie n'est que la grâce. Elle est comblée de grâce, c'est l'ange qui l'avait saluée comme cela. « Réjouis-toi, comblée de grâce, l'ange Gabriel, à l'Annonciation, le 25 mars. Réjouis-toi, comblée de grâce. » Et finalement, nous comprenons qu'il n'y a que de la grâce en elle, et donc c'est facile pour Marie de s'identifier à cette grâce qu'elle a reçue de sa conception immaculée. Elle est la conception immaculée. Elle reconnaît en disant cela qu'elle est comme un pur produit de la grâce de Dieu, et qu'il n'y a que de la grâce en elle. Elle exprime aussi une totale dépendance à la grâce de Dieu et à la sainteté de Dieu. Il n'y a rien en elle qui ne viendrait pas de Dieu. tout ce qui est en Marie vient de Dieu, est donc donné par Dieu, est donc grâce de Dieu, et finalement se résume à sa conception immaculée, parce que c'est la première grâce qu'elle a reçue au tout commencement de son existence, qui l'établit dans une sainteté comme il n'y en aura jamais de pareil. Donc dire que quand Marie dit « Je suis l'Immaculée Conception », eh bien finalement, elle, en s'identifiant à cette grâce qu'elle avait reçue, elle nous révèle qu'elle est établie dans une sainteté absolument sublime. Ça nous révèle aussi qu'il n'y a aucun repli en Marie sur elle-même, aucune trace d'orgueil, une totale liberté devant Dieu et devant les hommes, ce qui lui permettait à Lourdes de sourire devant la petite Bernadette qui était encore bien malheureuse au début. Elle lui souriait sans vergogne, sans complexe, dans une vraie liberté. Et ça, c'est très beau. Et on sait combien ce sourire de la Vierge Marie touchait profondément Bernadette. Marie est donc l'Immaculée Conception. Elle est la Conception Immaculée. Une deuxième chose que nous pourrions comprendre, c'est ceci. C'est que, comme je l'ai dit, elle est rachetée au niveau de sa nature. Elle est apte à devenir mère d'une humanité nouvelle. Eh bien, en disant « je suis l'Immaculée Conception »,« je suis la Conception Immaculée », Marie nous révèle qu'elle veut être notre mère. Elle veut nous concevoir pour cette vie nouvelle, la vie pour l'humanité nouvelle, pour la vie éternelle. Et là, ça rejoint une expression assez moderne, assez neuve dans l'Église, engagée par le pape Paul VI à la suite du Concile Vatican II et renouvelée par le pape François tout récemment. C'est nous disons que Marie est mère de l'Église. Elle est véritablement notre mère, pas seulement pour nous dans notre vie chrétienne, pour chaque baptisé. Nous pouvons dire qu'à chaque baptême, quand nous sommes baptisés, nous naissons et que pour cette naissance, nous avons une mère et cette mère, c'est Marie, c'est l'Église, c'est Marie, tout cela s'identifie un petit peu. Mais Marie, quand on dit qu'elle est mère de l'Église, on peut l'imaginer un petit peu, si vous voulez, dans la gloire du ciel. Comme si elle nous accueillait vraiment au fur et à mesure que nous pénétrons la gloire du ciel pour la vie éternelle. Marie nous accueille et nous enfante pour la vie éternelle. Jusqu'à ce que toute l'Église, c'est ça qui est important, jusqu'à ce que toute l'Église dans la plénitude soit réunie autour de Dieu, autour du Christ, autour d'elle. Il y a une image très belle comme cela, c'est l'image du couronnement de la Vierge Marie dans la gloire du ciel. Quelles sont cette image dans le livre de l'Apocalypse où Marie... c'est une femme, mais on devine que ça peut être Marie. Marie paraît couronnée d'étoiles, une couronne de 12 étoiles sur la tête. Cette couronne d'étoiles, on peut dire cela comme ça, c'est la Vierge Marie dans la gloire du ciel qui est comme couronnée de tous ses enfants. Quand nous serons tous réunis, 12, c'est un chiffre symbolique pour dire que nous sommes tous là. C'est la plénitude du rassemblement de tous les enfants de Dieu auprès de Dieu, auprès du Christ et auprès de Marie. Donc encore une fois, quand Marie dit « Je suis la Conception Immaculée », elle manifeste sa volonté de nous concevoir, de nous enfanter, mais elle a une perspective. Elle veut, en disant cela, « Je suis l'Immaculée Conception », elle veut que nous soyons tous sauvés. Elle veut nous enfanter tous, elle veut être notre mère à tous. Elle veut nous conduire, elle veut nous voir tous auprès d'elle un jour dans la gloire. Elle veut que nous participions au salut. Elle sait que nous n'y participerons pas comme elle, par cette grâce de l'Immaculée Conception, mais nous y participerons en étant saints et immaculés. Ça, c'est saint Paul qui nous dit cela, par la grâce de notre baptême et par notre résurrection, tout simplement, à la fin des temps. Nous serons saints et immaculés comme elle. Marie le veut. Marie s'y engage. Marie prie pour nous. Marie intercède pour nous. Elle est notre mère et elle veut vraiment... Nous donner cette vie nouvelle, elle va nous la transmettre parce qu'elle la reçoit pour nous de Dieu, elle l'a reçue de manière totale et plénière, et comme elle est pure transparence, elle est à même de nous communiquer cette grâce de sainteté totale. Donc cette expression-là, « Je suis l'Immaculée Conception » qu'a prononcée la Vierge Marie à Lourdes, témoigne vraiment de son désir d'être notre mère et la mère de toute l'Église pour voir tous ses enfants réunis auprès d'elle. Ça a un écho très grand dans la vie de Bernadette, qui voulait se consacrer à la Vierge Marie en devenant enfant de Marie. Ça veut dire qu'elle voulait que Marie soit sa mère. Et en prononçant cette phrase, je suis l'Immaculée Conception, Marie en quelque sorte répond au désir de Bernadette, qui veut se consacrer à Marie, et Marie aussi veut devenir la mère de Bernadette. Je pense à chacun d'entre nous, qui sommes pèlerins de Lourdes, même si on ne peut pas venir aujourd'hui à Lourdes, mais bientôt on reviendra, nous voulons aussi que Marie soit notre mère. Nous voulons devenir aussi, comme Bernadette, enfant de Marie. Donc ça a beaucoup de sens de s'approcher de la grotte de Lourdes, de s'approcher de la Vierge Marie Immaculée Conception, et de choisir Marie pour mère dans cette perspective. Alors voilà, chers amis, chers pèlerins de Lourdes, ce que je voulais vous partager sur la Vierge Marie, son Immaculée Conception. Alors d'abord sur sa conception immaculée et surtout sur le fait qu'elle a dit « Je suis l'Immaculée Conception ». C'était le 25 mars 1858 à la grotte de Massabielle devant la petite Bernadette qui recevait ce message pour l'humanité. Bernadette nous a transmis ce message comme elle l'a reçu. Elle n'a vraisemblablement pas tout compris de ce que Marie lui a dit, mais aujourd'hui nous avons un petit peu travaillé pour essayer de mieux comprendre ce que Marie a voulu nous dire. Alors je souhaite à chacun de pouvoir bien prier la Vierge Marie, la choisir pour mère, se donner totalement à elle, en attendant de revenir à Lourdes. Venez vite, nous vous attendons. Merci, bonne journée, j'espère à très bientôt.